Radio Campus.
Ça vous fera pas de mal un peu de chasteté.
Comanche style.
Embrace your new found love.
Contestation.
Hermano.
Répression.
Ouais, bah, j'ai connu un mec de droite une fois, il avait 10 fois plus de clash.
À bâton rompu avec Hassan Kerry.
Si vous êtes à l'écoute de Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours, bonsoir et merci à vous. C'est à bâton rompu jusqu'à 20h, magazine d'info tous les mardis. Nous parlons ici de sujets autres qui, nous l'espérons, vous plaisent. Cette semaine avec Victor. Bonsoir Victor.
Bonsoir Hassan, bonsoir à toutes et à tous.
Et puis avec toi tout à l'heure, nous parlerons d'un rapport, le rapport sur la pauvreté fait par le Secours Populaire.
C'est bien ça.
Le vénérable Secours Populaire. Un invité ce soir, juste avant, saluer.
Ouais, mais juste en micro un tout petit peu plus fort, Hassan,
c'est ça,
à peine, et avec ce nouveau bed, on t'entend encore moins.
Bon bah écoute, vous l'avez reconnu, c'est Erwan, bonsoir.
Et oui, c'est moi, bonjour, bonsoir.
Erwan qui vient de nous faire en 30 minutes.
Tu peux encore monter ton micro.
Ouais, tu peux monter encore.
Là, vous m'entendez bien?
Ouais, c'est mieux.
Bon, je disais, Erwan qui nous a concocté 30 minutes clé en main, un nouveau générique que vous entendez pour inaugurer cette émission de ce mardi. Merci à toi.
Mais merci beaucoup. Un nouveau générique, ce n'est qu'un arrangement de celui que tu avais déjà depuis une vingtaine d'années et qui, je crois,
est
même dans un petit. Oh, en vrai, je trouve qu'il représente bien l'émission. J'ai essayé de garder un petit peu justement les sonorités et qu'on reconnaît bien dans ce générique-là. Mais je crois que c'est un bel hommage parce que je l'ai monté en une demi-heure et le générique original avait aussi été monté en une demi-heure.
Absolument.
Avant une émission, c'est ça.
30 minutes pour 30 ans aussi de Radio Campus.
Exactement.
Thomas est là ce soir.
Salut Hassan.
Salut Thomas, avec qui nous allons faire quelques émissions pour les 30 ans de cette radio. Vous le savez, on communique autour et il y a de belles choses à venir bientôt.
Attendez, notre prochaine émission, il y aura du manga.
Aussi, je tiens à rappeler que ce vendredi soir, on fait l'apéro audio au 108.
Oui.
Donc au 108 rue de Bourgogne pour les Orléanais et les personnes qui habitent dans les communes pas très loin. Si jamais vous avez envie de venir nous écouter de la musique et profiter un peu de l'ambiance Radio Campus, vous êtes les bienvenus.
Vous êtes les bienvenus, évidemment. Un invité ce soir, je disais, Mathieu Langlois. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir.
Bienvenue dans ces studios que tu. On va se dire tu.
Ouais, pas de souci.
Que tu connais bien, hein, ces studios. Tu as en effet participé à de nombreuses émissions ici, d'abord en tant qu'étudiant.
C'est vrai.
Il y a quelques années, c'était quoi? C'était la NRU,
même le CPE, non? Je crois le tout début CPE, ouais.
CPE, t'étais déjà là-dedans.
Ouais.
Et oui, je me rappelle, hein, j'ai quelques souvenirs ici de débats entre toi et des syndiqués Sud, UNEF, et tu t'en sortais plutôt pas mal, toi le mec de droite.
On s'en sort, ouais.
on
va voir ce soir encore, mais si je m'en sortir.
Voilà. Est-ce que tu as gardé des souvenirs de cette période-là?
Alors déjà des très bons souvenirs, honnêtement. Ouais, je me disais tout à l'heure, ça fait 16 ans, ça fait 16 ans déjà. Donc voilà, on vieillit comme le jingle et comme le générique. Franchement, ouais, super content d'avoir vécu tous ces moments-là. Franchement, je pense que ça m'a aidé toute ma vie. Vraiment les AG, d'être le seul mec de droite à prendre la parole dans les AG qui étaient complètement contre moi. Ça m'a permis de prendre franchement des aisances. Ah bah là, j'ai l'impression que je m'entends plus.
Oui, mais...
On commence, on règle ça.
En fait, c'est la censure de Moscou.
C'est ça.
Ah, ça n'a pas changé Radio Campus.
Ensuite, tu es devenu élu.
Oui, c'est ça.
Tu étais adjoint au maire même.
Exactement.
Ça a duré quelques temps.
Ça a duré 6 ans, de 2014 à 2020.
Et tu as arrêté complètement la politique? J'y crois pas.
Bah non, j'ai pas dit que j'avais complètement arrêté, mais voilà, on a malheureusement perdu en 2020 et ça fait partie du jeu de pouvoir prendre du temps aussi. Et puis c'est bien aussi d'arrêter de temps en temps. Le métier, c'est pas un politique, et c'est la politique, c'est pas un métier. Et c'est bien aussi de revenir un peu sur la terre et de voir comment ça se passe dans la vraie vie et pas uniquement dans le monde politique.
Et donc là, aujourd'hui, tu travailles dans le numérique.
Ouais, c'est ça. Je travaille dans le numérique à la CCI.
Bon, on parlera de tout ça. On essaiera, en tout cas, dans le temps. Qui nous est imparti. On va démarrer cette émission, amis auditeurs et auditrices, avec Mourad, vous le savez, Mourad et sa chronique de début d'émission.
à bâton rompu, 19h-20h sur Radio Campus Orléans.
Bonsoir Mourad.
Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à toi Hassan.
Merci encore une fois de ta disponibilité pour Abaton Rompu. Nous sommes avec Victor pour démarrer cette émission. Ta chronique aujourd'hui va parler d'un coup de projecteur que tu as mis sur un collège dans l'UMA, un collège d'Orléans qui honore un couple de résistants.
Oui, qui enfin honore un couple de résistants, puisqu'en fait en 1987, si ma mémoire est bonne, un collège avait été inauguré à Orléans. Il portait donc le nom d'un résistant, dont je vais te laisser dévoiler le nom.
C'est Pelletier, non ? Je crois, non ?
Oui, absolument, Jean Pelletier, et qui, en fait, donc ce baptême a couru pendant quelques décennies, et puis des élèves de 3e de ce fameux collège, en fait, ont fait des recherches et sont tombés sur l'histoire de l'épouse de Jean Pelletier, qui en fait était exact. Elle-même résistante, et qui du coup n'avait pas été honorée, alors qu'elle avait en plus, elle-même, elle était encore vivante, puisqu'en fait son mari est mort en déportation, et elle a survécu, et elle est revenue d'Auschwitz. Et donc elle est morte à l'âge de 92 ans, elle a inauguré le collège du nom de son mari, et elle n'était pas citée. Et donc il y a eu des recherches faites par les collégiens, et ils ont découvert dans la vie de Jean Pelletier que son épouse était également résistante, et que il convenait d'adosser le prénom de cette résistante de l'épouse de Jean Pelletier. Au collège, au nom du collège. Et donc, il a été rebaptisé cette année, avec l'aval des élus du conseil départemental, que je salue pour ce geste, et puis du principal de l'époque, qui n'est plus là maintenant, et donc des élèves qui ont fait un super job. Et alors, le truc, c'est que ça vient, en fait, donc ça s'est retrouvé dans l'humanité d'aujourd'hui, et en ligne. Ce qui est frappant, c'est que ça vient montrer le côté invisibilisant de l'histoire, en fait, qui ne retient que les hommes et très peu souvent les femmes, notamment dans la résistance. Et je trouve que c'est une belle histoire à raconter, et donc ça fait partie des rares sujets très positifs qu'on peut mettre comme ça en avant, et donc j'ai tenu à le faire.
Et ce collège s'appelle désormais Alice et Jean
Pelletier, exactement. Et donc Alice a trouvé sa place, a retrouvé sa place de résistante, et non pas simplement de femme de ou je ne sais quoi. Et donc je trouve ça très bien, et ça permet de redonner comme ça aux femmes toute la place qu'elles ont eue effectivement dans la résistance.
Nous allons maintenant parler de passer un petit son de nos amis de e-news, e24 news, un son qui parle de la guerre, de comment on voit ça nous ici ailleurs qu'en Israël. Écoutez.
Oh là là, qu'est-ce qu'ils nous prennent la tête ces Israéliens avec leur 7 octobre. Bah vous savez quoi, vous avez raison si vous pensez ça. Ça fait presque un an qu'on se trompe, nous Israéliens. On se concentre sur le 7 octobre et l'air de rien, sans le montrer, le 7 octobre a volé la vedette au 8. Au 8 octobre. Qu'est-ce qu'elle raconte, la petite dame dans la lucarne, me direz-vous ? Laissez-moi vous éclairer. Le 8 octobre, le Liban, non, pardonnez-moi, le Hezbollah, a déclaré la guerre à Israël. Vous saviez ? Non, vous saviez pas ? Le 8 octobre, les roquettes ont commencé à pleuvoir sur le nord. Et comme on ne pouvait pas être sur tous les fronts, on a dit aux habitants du nord de dégager de ses œufs. Pris en otage par le Hezbollah. Ils sont donc 63 500 à avoir quitté leur maison, leur ferme, leur travail, pour ne pas mourir sous les roquettes de l'organisation terroriste libanaise. Ah, les roquettes, justement. Ils en ont reçu 8800 sur leur tête. 325 personnes ont été blessées, 48 sont mortes, dont 12 enfants. Alors au bout de 350 jours, quand Israël se décide enfin à répliquer avec une attaque, avouez-le, d'une précision à faire pâlir d'envie un neurochirurgien, alors donc quand au bout de 350 jours, Israël se décide enfin à répliquer, il vous reste à vous deux options. Compatir avec les Israéliens et remercier de faire le boulot à votre place, ou vous la fermez. Mais dans les deux cas, et avec ces deux options, la réaction des Israéliens sera la même. Ils continueront à se défendre, et donc par la même occasion, on l'a bien compris, ils continueront à emmerder le monde.
Mourad, cette journaliste s'appelle Nathalie Nagar, elle est sur, je disais, e-news, et tu la suis depuis quelque temps.
Oui, elle est en train de se radicaliser littéralement. Elle est plus du tout. Enfin, si tant est qu'elle était un jour journaliste, elle l'est plus du tout. Là, elle est porte-parole de l'armée génocidaire et porte-parole du Likoud. Et donc, elle assène le fait que si on n'est pas avec l'armée génocidaire, si on n'est pas du côté du Likoud, on est antisémite, pour être très clair. Hein. Ouais. Voilà. Et en fait, elle tient un discours complètement délirant, puisqu'en fait, les fameuses attaques au talkie-walkie là, notamment, et au beeper, c'est en fait une suprématie technologique, je sais pas quoi, c'est simplement que les services secrets des autres pays occidentaux, enfin des pays occidentaux, sont aussi équipés et aussi compétents. Simplement, ils s'interdisent ce genre de saloperie parce que ce sont des États démocratiques et que ils ne recourent pas au terrorisme pour s'en prendre à des victimes, y compris civiles, hein, parce qu'on là, d'abord il y a pas de forme de procès. Hein. Un État démocratique fait des procès. Là, il y a pas de procès, c'est on tue. On tue et on tue de manière aveugle. Et ça, c'est la définition absolue et totale du terrorisme. C'est-à-dire que on ne sait pas qui se trouvera à proximité à ce moment-là du beeper ou du talkie-walkie. On s'en fout, des enfants meurent, on s'en moque éperdument. Et donc, elle justifie ça comme une défense. C'est pas du tout une défense, c'est une attaque. C'est une attaque terroriste de la part d'un État qui se dit démocratique. Et donc, ça pose énormément de questions. Et je pense qu'elle est complètement sortie de son rôle de journaliste et qu'elle devrait rendre à minima sa carte de presse. Et surtout, l'ARCOM, qui est au courant de ses agissements, devrait prendre des mesures et des sanctions de suspension d'antenne, voire de suppression de l'attribution de quelques canaux que ce soit. Victor. Et c'est pas fait et on s'étonne pourquoi.
Victor.
Oui, moi, le truc qui m'a le plus frappé au final dans son interview, c'est qu'elle explique qu'on fait le sale boulot que vous aimeriez faire. En plus, il y a une espèce de procès d'intention comme quoi toutes les personnes qui sont membres des pays occidentaux voudraient absolument le génocide des Palestiniens. Enfin, c'est complètement délirant, quoi.
Oui, mais c'est la position d'Arthur, c'est la position de toute une série de gens qui, de manière inconditionnelle, défendent Israël, à savoir que si on n'est pas avec Israël, on est contre la démocratie, on est contre la paix, on est contre le... Voilà, on doit remercier tous les matins Israël de faire ce qu'elle fait, parce qu'elle le fait pour nous, alors que c'est complètement faux, c'est complètement fou, et que ça n'a aucun sens démocratiquement parlant, et même pas démocratiquement parlant, simplement au regard du droit international, ça n'a absolument aucun sens. Et là, se rend complice d'un crime, à minima de crime contre l'humanité, et dans le pire des cas, d'un génocide programmé.
Et il faut dire que I24 News est diffusé en France, évidemment, donc tu parlais de l'ARCOM pour ça, et puis l'occasion aussi de rappeler qu'en ce moment, dans le sud du Liban, Israël est en train de massacrer, c'est le mot qu'on peut dire, en quelques jours, 500 morts, je crois, depuis hier, dont des femmes et des enfants, donc voilà, des combattants, oui, des combattants. Merci Mourad.
Oui, mais surtout, pardon, je termine juste là-dessus.
Bien sûr.
Surtout, Israël attaque un État souverain.
Bien sûr.
Et ça vient violer une nouvelle fois, si tant est qu'il fallait encore un exemple, ça vient violer une nouvelle fois toutes les règles du droit international. Mmh. Et qu'il n'y ait aucune réaction à la hauteur de ce qui se passe actuellement au Liban me semble vraiment, vraiment problématique. Et là, je ne le comprends pas, sachant que le Liban a suffisamment souffert, encore récemment avec l'explosion du port de Beyrouth. Mmh. Je ne comprends pas. Qu'on laisse faire comme ça, de manière, enfin avec une impunité qui force l'admiration, qu'on laisse faire Israël et qu'il n'y ait pas de réponse internationale à la hauteur. Je trouve ça vraiment problématique et surtout, et je termine là-dessus, surtout ça vient de nouveau alimenter le deux poids deux mesures, et donc par extension ça vient alimenter le véritable antisémitisme, et là il se tire littéralement une balle dans le pied.
Il faut rappeler également qu'en ce moment à New York se déroule l'Assemblée Générale des Nations Unies. J'ai commencé à regarder ça depuis hier. Aucune réaction d'aucun chef d'État qui a pris la parole. En tout cas, on va continuer à suivre ça et en parler ici. Mourad, tu sors d'un enregistrement de.
Oui, et là pour tout vous dire, je file vers la gare de service pour prendre mon train pour les obligations familiales.
Le média, donc l'œil de Moumou, c'est diffusé demain soir. Hein,
c'est diffusé mercredi soir à partir de 20h30 sur la TNT, chaîne. Sur la Free Box. Pas encore la TNT, mais sur la Freebox, canal 165. Et puis, vous retrouvez la chronique, évidemment, sur la chaîne YouTube du Média.
Merci à toi pour ta disponibilité, encore une fois.
Oui, merci à toi, Mourad.
Merci à vous. Et puis, désolé pour le timing, parce que là, c'est un peu la course, mais voilà, ça fait partie du job.
On te laisse courir, attraper le train. C'est que si tu loupes celui-ci, t'en as pas un avant demain. Ciao, ciao.
Au revoir, Mourad.
Merci à vous. Bonne soirée. Je vous écoute avec grand plaisir. J'avais peut-être une question pour Mathieu Langlois.
Oui, qui est notre invité juste après toi.
Oui, je voulais juste savoir quel avenir politique voit-il pour Orléans dans les prochaines années. Et est-ce que la réélection de Serge Grouard et de son équipe, ou de Florent Monture, ça revient à peu près au même, est-ce que c'est totalement inéluctable? Voilà, c'est la question que je voulais lui poser et j'écouterai avec intérêt sa réponse.
Eh bien, il va te répondre tout de suite après un peu de musique. Ciao, ciao.
Ciao.
Je vis dans mon exil de luxe de barésie. Ici, l'on se résigne à fumer de la résine. J'ai gratté trop de faf et noirci trop de pages. Sentais le message, le propos. Le propane se propage. Le sentiment de ma révolte n'est pas très clair, il est diffus. Je suffoque à mon époque, la refuse et la réfute. J'ai pris l'avion au vol pour devenir clando dans la soute. Je veux pas devenir un passager, je veux pas finir cracheur de soupe. J'ai rêvé de dissidence en me goinfrant de mes pop-corns. L'intégrité s'est faite l'ennemi, je suis cocu et j'ai des cornes. La transgression n'existe plus, le système nous avale. Nous recrache en rond de fumée, paix cigare de la Havane dans la savane de Paname. Sur le goudron, le macadam, j'arpente les rues en toute saison dans le chaudron de mes états d'âme. Je me revois un peu débile traînant dans le quartier latin, entre les bouquins, les vinyles ou bien Bastille au petit matin. Avec cette bande de copains parlant des connards qu'on adule, on était tous un peu crétins de se gargariser de nos vues d'adultes. On débattait sur les pogroms, les concepts et leurs nuances. On discutait aussi football, sexe, argent et vacances. On se dandinait comme des dandys, on se voulait fuir des nomades. On rêvait tous de jet lag et de s'extraire de la vie normale. Mais de New York à Moscou et de Shanghai à London, les mojitos sont le même goût, les bars diffusent Jill Peterson. On s'est jeté dans la vie de con pour air pur aseptisé, on en voulait au monde entier en faisant plaisir à son banquier, puis de Bifort en after, Caipirinhas ou Bavaria, sur les murs lounge des clubs tendance, y'a Cassius Clay, Che Guevara, à 5 euros le petit négro, ils ont fait fort au café Flore, et Jean Salpartre s'est décidé, je vais devenir un pick-up-flore. Sans balise, quand la musique te marginalise, le jour de ma mort, sur mon cœur je n'aurai pas de valise. Je partirai léger quand certains se sentiront lésés, se sentiront pleins de regrets, peut-être de n'avoir pas osé. J'ai jamais trop rêvé d'avoir l'appart et la voiture. Je suis à côté de mes pompes, moi j'aime la gratte et les ratures et l'aventure. Un jour se lève, un jour nouveau, un jour d'adolescence ou sur un banc. J'ai rêvé de rêvaux, les épreuves de la vie, des ouragans qui font péter les digues, me fatiguent. Et puis mes textes n'ont plus d'intrigue, les révoltes sont diluées, nuages de lait dans un café. Tu ne signes pas des autographes quant à l'avenir, auto d'affaire. Je suis un peu paumé et j'ai le cœur à la renverse. Mais t'inquiète pas, je sais que la vie est une tempête que l'on traverse. Ce monde il est vulgaire, c'est un tapin dans un motel. Je fais partie de ces jeunes-là qui ont grandi sans un modèle. Pour mes enfants, je l'espère, je serai un exemple. Et de mes larmes et de mon sang, ok, de ça je les exempte. Je suis pessimiste, ce monde il se barre en cacahuète. Je file vers ma planète. Appelez-moi dès que ça s'arrête. Génération, résignation, sans notion ni passion. Trop plein d'informations, environnement, détérioration. Condamné à trouver du sens dans ce non-sens. Certains brûlent la France à l'essence, ou consomment à outrance, ou acquérir de l'argent, de la gloire ou du pouvoir. Mais laissez-moi que je me pars, je veux perfectionner mon art. Certains appelleront ça lâcheté ou égoïsme. Je le répète, si je pouvais, j'achèterais de l'héroïsme.
Gaël Faye, le très talentueux Gaël Faye à l'instant, c'est le choix de Monsieur Victor.
Oui.
Tu peux nous l'expliquer?
C'est un morceau qui vient de son album Pili Pili sur un croissant au beurre,
exact.
Sorti en 2013.
C'est
une pure merveille cet album, vous avez que des bangers de bout en bout, je vous conseille vraiment d'aller faire un petit tour. Et celui-là, c'est un morceau qui me parle parce que je trouve que c'est un morceau qui est assez fort sur la renonciation à ses idéaux en fait.
Okay.
Sur le fait qu'on veut s'en sortir, on veut s'extraire de la vie nomade, comme il dit, mais au final, on fait plaisir à son banquier, quoi.
Cet album est juste du tonnerre, et sur ce morceau, Julia Sarr, une grande chanteuse franco-sénégalaise, qui a une superbe voix, à bâton rompu, la suite.
À bâton rompu.
Mais pourquoi ça me fait ça?
On a nouveau... T'as décidé de scratcher quoi.
Mais on a un nouveau générique si c'est pour avoir ça. Monsieur... allez, le jingle, un autre.
Orléans et Radio Campus Tour tous les mardis de 19h à 20h.
Et là, du coup, j'ai du son.
Ah, et t'as un, ouais, t'as un tapis musical. D'accord.
Je sais pas d'où ça vient, réellement.
Regarde tes trompes.
Un jour viendra le corps tassé.
C'est le PC Antenne. Qui a réenclenché avec une nouvelle chanson.
Allez, on va oublier ça.
C'est un petit truc de Gaël Faye.
Hassan et la technique.
Oui, c'est ça. Notre invité, pourtant, il fait de la radio depuis 30 ans. Maintenant.
Il est perdu, Hassan.
Et oui, notre invité, Mathieu Langlois. On parlait de toi tout de suite. Et là, il y a avec la question de Mourad. On va redémarrer avec ça.
Direct.
Oui, tu as été élu, je disais, tu étais adjoint au maire sous Serge Grouard.
Oui, et Olivier Carré.
Et Olivier Carré, les deux.
Oui.
Aujourd'hui, il y a une nouvelle donne. Olivier Carré n'est plus sur dans le paysage.
Oui.
Alors, la réponse à Mourad, qu'est-ce qui va se passer?
Eh bien, si il n'y a pas d'autre opposition possible à Serge Grouard aujourd'hui, inéluctablement, oui, en tout cas, il part favori. Mais à titre personnel, je crois qu'il y a une autre solution possible. Je crois que on est arrivé aussi au bout de fin de course, quatrième mandat. Je remets pas en cause ce qui a été fait pour Orléans par Serge Grouard.
Tu crois qu'il est cramé ou pas?
Je sais pas s'il est cramé, mais je crois qu'Orléans mérite un nouveau souffle. Et au-delà de sa volonté à lui, je crois que il y a besoin de dynamiser quelque chose de nouveau. Il y a des politiques nouvelles à mettre en place pour Orléans. Et je suis persuadé qu'au bout de 4 mandats pour Orléans, on n'est pas sûr d'avoir du renouveau. Mais ça vaut pour tout, hein. Ça vaut dans les relations, ça vaut dans le boulot, ça vaut pour tout. Je crois qu'à un moment donné, il faut passer la main, et que passer la main, c'est aussi laisser la place aux jeunes.
À une époque, il y avait toi, et t'étais pas le seul jeune autour de Serge Grouard. Ouais. On vous voyait beaucoup plus. Aujourd'hui, il y a aussi des jeunes, mais qu'on voit beaucoup moins. Est-ce que tu crois qu'il y a quelqu'un derrière? Mourad parlait de Florent Montillo.
Si Florent Montillo, c'est l'image de la jeunesse, parce qu'on n'a pas le même exemple de la jeunesse en tête.
On est d'accord.
Mais clairement, il faut. Il y a cette partie-là. Les anciens qui sont là depuis 20 ans et que je respecte. Hein, mais il y a un moment donné, faut laisser la main. Il y a des gens qui vont se positionner. Il y a des gens qui vont faire le boulot. Et surtout, au-delà des personnes, il y a un programme à mettre en place. Et les municipales, c'est un programme. Et la ville a besoin d'avancer. On peut pas rester sur les acquis depuis 20 ans. Et là, maintenant, il faut faire avancer la ville, parce que sinon on va se faire doubler par les autres, et une fois que c'est enclenché, c'est enclenché.
Et toi-même, est-ce que tu as, excuse-moi,
non mais je sais pas si c'était la question que tu voulais, mais justement cette proposition d'alternative, comment est-ce qu'elle se construit actuellement, puisqu'on est à peu près 2 ans de l'échéance municipale, et notamment, est-ce que vous avez déjà une tête de liste?
Ah non, mais moi j'ai pas de tête de liste.
Si quelqu'un venait te chercher.
Ouais, voilà, c'est ça.
Mais,
parce qu'il y a des discussions, j'imagine quand même. Est-ce que ça part de Horizon? Est-ce que ça part d'autres mouvements politiques?
En tout cas,
on va en savoir plus.
En vrai, de toute façon, avec un grand sourire. A priori, il y avait pas d'idée derrière. mais en fait, déjà, d'un point de vue logique, il y a 4 blocs en ce moment, voire même 5. Il y a le bloc d'extrême gauche, l'extrême gauche qu'on pourrait considérer
gauche radicale.
Gauche radicale, pardon. Je savais que j'allais être
à Orléans.
Après il y a la LFI quand même qui va devoir se positionner. Est-ce que on part sur
elle n'a pas d'élu?
Non, c'est vrai. Non. Mais est-ce qu'on va partir sur la même logique qu'il y a maintenant 4 ans, ou est-ce qu'on va partir avec une candidature séparée? Est-ce qu'on va pouvoir avoir le nouveau Front populaire réuni à Orléans au municipal? Ça va être une grande inconnue. Déjà pour le moment, c'est déjà une inconnue de façon générale. Donc est-ce que pour les municipales dans 2 ans, ça va être compliqué? Ensuite, on a un bloc centriste. On a un bloc de droite, et puis se posera la question du bloc d'extrême droite. Et comme il y a 4 ans, il n'y a pas eu de bloc d'extrême droite.
Tout à fait.
Donc il va falloir
voir. C'est un hasard, selon toi, ou pas?
Non, c'est pas un hasard. Le Rassemblement National à Orléans se positionne pas depuis longtemps.
Ouais.
C'est aussi un exemple du fait que à Orléans, le Rassemblement National fait pas des scores fous, que en 2014, ils ont pris aussi une tôle avec 3 élus. Ouais. Donc à un moment donné, ils n'y vont pas, et puis ça fait bien aussi les affaires des uns et des autres.
Ou alors leur vote va à quelqu'un?
De toute façon, le vote va forcément à quelqu'un. Au-delà des partis, c'est des gens qui votent. Donc foncièrement, ça va. Oui, est-ce que le vote Rassemblement National va plutôt vers un électorat de droite? Oui, logiquement. Il ne va pas que vers l'électorat de droite. Il est dispatché. Mais oui, majoritairement, il se reporte sur l'électorat de droite. Et puis, il y a les radicaux extrême droite qui, de toute façon, ne vont pas voter. Il faut se rappeler aussi du contexte de 2020. Hein. Ouais. On est dans un moment de Covid et on est élu avec 8000 voix. Hein.
Oui, bien sûr. Clairement.
Faut aussi se rappeler le contexte.
Clairement.
Un premier tour au mois de mars et le deuxième au mois de juin.
Et la gauche récupère quelques voix. Hein. À Orléans, en tout cas, dans le Loiret, c'était une des villes qui a récupéré quand même pas mal de voix de gauche. Est-ce que c'est de nature à changer les choses pour une municipale?
Oui, enfin, en 2012, il y a eu aussi un électorat de gauche qui s'est mobilisé pour l'élection de François Hollande et puis qui n'a pas été dans les élections en 2014 pour l'élection municipale. On a eu aussi un contexte plutôt à gauche pour 2020 et puis il ne s'est pas réuni dans les élections municipales. Donc non, en fait, la question, c'est... Je ne crois pas qu'il n'y a qu'une question de personne. Il y a une question de programme, il y a une question de ce qu'on essaiera d'aller devant les gens avec des choses construites. Et je crois qu'il faut aussi écouter ce que disent les habitants. Et malheureusement, et c'est vrai sans doute sur le côté national aussi, et côté municipal c'est vrai aussi, souvent on a tendance à oublier d'aller voir sur le terrain, d'aller au contact des gens et d'écouter ce qu'ils ont à dire.
Bon, le téléphone n'arrête pas de sonner, mais il faut que quelqu'un se débrouille pour y aller. Notre invité, Mathieu Langlois.
Moi, j'avais une question aussi. Vous qui avez été élu à la fois sous le mandat de Serge Grouard et sous le mandat d'Olivier Carré. Ouais. Déjà, par rapport à Serge Grouard, je voulais savoir, de votre point de vue, quelle était la différence entre l'ancien Serge Grouard et le Serge Grouard de maintenant ? Parce que vous avez dit, là, il a fait son temps...
Non, mais c'est même pas une question de Serge Grouard ou pas Serge Grouard, en fait. Le but, c'est pas de dire du mal de Serge Grouard pour dire du mal de Serge Grouard. La question n'est pas là.
Non, c'était la différence. Je me demandais quelle était la différence, peut-être, entre...
Non, mais ça fait... alors, sauf Hassan, qui a une longévité incroyable à la radio...
Mais t'as vu ça ?
Mais il n'empêche que quand vous commencez la radio il y a 30 ans et quand vous faites de la radio aujourd'hui, globalement, vous n'avez plus les mêmes idées et plus les mêmes envies. Et est-ce qu'aujourd'hui, un animateur qui est là depuis 30 ans... Et je ne parle pas de toi, Hassan. Franchement, ne te sens pas visé.
Mais tu peux.
Est-ce qu'on est toujours sûr d'être en face des attentes des gens qui écoutent la radio alors qu'il y a eu 30 ans d'évolution?
Bon, alors, bah, voilà. Hassan, t'as entendu?
Tu vois, c'est l'exemple même.
La différence ici, c'est qu'il y a des jeunes voix, tu vois, il y a Victor, il y a Thomas, il y a d'autres, et que on leur laisse la place.
Et bien voilà.
Et je reviens à ma question tout à l'heure. Pour l'instant, on n'a pas de jeunes autour de Serge Grouard qui pourraient, si vraiment il en a marre d'être là, à qui il filerait ça? Parmi des jeunes, des quinquagénaires même. Mais...
Oui, bah c'est peut-être le problème effectivement de Serge Grouard pour la suite. C'est peut-être qu'effectivement derrière lui il y a le néant. C'est peut-être la difficulté qu'il a et c'est peut-être aussi ce qui lui permet aussi d'avoir le positionnement qu'il a, c'est-à-dire que sans lui la droite républicaine ne gagne pas et que de toute façon heureusement qu'il doit être candidat, sinon Orléans est perdu.
Tu les connais quand même les jeunes autour de Serge Grouard?
Non, je les connais pas. Honnêtement, je les connais pas.
Ouais.
Et honnêtement, enfin voilà, c'est je ne vois pas un nom qui sort plus que les autres aujourd'hui.
Bien sûr.
Voilà. Et au-delà de ça, la société civile regarde. De talent. Donc on n'a pas besoin d'être élu pour pouvoir reprendre le flambeau. On a besoin de construire, encore une fois, on a besoin de construire quelque chose de nouveau.
Ça te manque, c'est ça ou pas?
Ouais.
Tu aurais bien voulu plus haut, être maire de cette ville. Je me rappelle d'une conversation qu'on avait eue et vous étiez même trois, je crois, avec Monsieur Chapuis. J'oublie son prénom tout de suite. Il y a Grégory.
Baptiste,
oui.
Et je ne sais pas si tu te rappelles, je vous disais, un de vous deux sera maire de cette ville un jour. Et tu n'as pas dit non.
Non, mais après,
t'avais souri, t'avais pas dit non.
Franchement, quand vous avez été élu une fois et que vous avez été touché par la politique et que vous faites des choses concrètes pour les gens, c'est compliqué après de lâcher l'affaire. Parce que vous êtes constamment mobilisé, vous êtes constamment dans le truc, vous allez voir les gens en permanence. Et moi, j'avoue, le contact humain avec le quartier, c'était très intéressant. Donc c'est ça qui est le plus important, en fait. Et c'est là où on voit si on est carbonisé ou pas. C'est si le contact avec les gens, ça vous saoule, c'est à ce moment-là qu'il faut lâcher la main. Et c'est peut-être aussi une partie de la réponse d'avant.
Thomas, Victor.
Thomas.
Moi je réinsiste à nouveau quand même parce que je sais que vous avez pas perdu j'imagine le contact avec les élus, avec les personnes avec qui vous avez travaillé, cette construction d'une alternative au niveau du centre droit, qui est-ce qui pourrait l'incarner?
Mais encore une fois, pardon, mais je suis désolé, mais en plus de ça, la question de fond, elle n'est pas sur qui pourrait l'incarner. Parce qu'en fait, on a vu dans les élections précédentes que même quand il y avait des incarnations, ça ne réussissait pas forcément. On a vu aussi avec Olivier Carré, ça a été l'exemple, il était maire sortant et ça n'a pas suffi pour être réélu. Donc il y a une question de personnalité, puis il y a une question de contenu. Et je crois qu'aujourd'hui, et encore plus dans notre difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est de mobiliser les gens sur la politique. Et si on arrive en disant, de toute façon c'est moi et c'est moi le sauveur, aujourd'hui ça ne marche pas. Donc vraiment, il faut une identité, il faut croire à un projet, il faut construire des choses. Franchement, et on a tout aujourd'hui pour construire des choses en commun. On a les réseaux sociaux, on a Internet, on peut faire des médias de masse, on peut faire des choses nouvelles. On peut aller toucher des jeunes générations, des jeunes actifs qui ne parlent pas en politique de manière générale. Enfin, moi, j'ai fait 80 réunions publiques par an. J'avais que des personnes retraitées qui venaient à mes réunions. Ça pose quand même une question. Non mais ça pose quand même une question.
Ils écoutent à bâton rompu, je leur dis.
Mais oui, de pas y aller, de pas y aller. Ça pose la question des jeunes et des étudiants qui ne vont pas en réunion publique et qui ne sont pas forcément concernés par la politique. Mais la politique, c'est tout le temps. On parle des femmes et la position des hommes et des femmes dans la société. Enfin là, on éteint les lumières à minuit. Quand vous êtes une femme, moi je m'en fiche, je rentre à minuit chez moi, j'ai pas de problème, j'ai pas peur. Mais quand vous êtes une femme, la question est autre. Mais est-ce qu'on les entend? Est-ce qu'elles prennent part aux décisions politiques? Maintenant, c'est tout ça qu'il faut réussir à faire et mobiliser là-dessus.
Après ça, ça rentre plus généralement dans la politique générale de Serge Gourard, qui est de vouloir tuer la vie nocturne à Orléans.
Après on peut rentrer dans les idées générales comme ça, et je dis pas que t'en fais une, hein, mais globalement, moi je sortais régulièrement à Orléans, et il y a une vie à Orléans quand même. Franchement, il y a des événements. La difficulté d'Orléans, c'est qu'on fait pas savoir. Mais le 108, j'étais à Hop 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 la semaine dernière. Ah, franchement, ça vit. Ça vit jusqu'à 1h du matin, 2h du matin. Après, vous allez dans les bars rue de Bourgogne. Ça vit quand même. Alors certes, on n'a pas les boîtes de nuit. Et c'est pas la grosse folie en termes de boîtes de nuit et d'animation nocturne. C'est vrai. Il y a aussi la question des riverains. À chaque fois, il faut toujours contenter tout le monde. Mais honnêtement, quand on a envie de sortir à Orléans, on a de quoi faire. Le problème, c'est qu'il faut être informé. Et ça, c'est un vrai sujet.
Moi, je vous dis que ça sent le gars qui prépare une campagne.
Mais non, pas du tout.
Pas du tout. Maintenant, tu es encarté à Horizon, cette partie d'Edouard Philippe.
Oui.
Vous préparez à quelque chose ou pas, une éventualité n'importe laquelle à Orléans, ce qui peut se passer. Est-ce que vous seriez prêt? Vous avez des propositions à faire pour Orléans?
Oui, en tout cas, c'est sûr qu'à Horizon, comme dans n'importe quelle partie, il y a une volonté de préparer les municipales. Je pense que toutes les élections qui arrivent, enfin, on n'a qu'à voir Edouard Philippe qui se positionne déjà
avec
sur
qui,
les...
Avec qui en tête? Je veux avoir cette information avant la REP. Vas-y, dis-moi.
Ah oui, tu veux le gros scoop. Il n'y a pas de tête. Honnêtement, il faut que les militants, les adhérents, les gens qui veulent construire pour Orléans fassent en sorte de pouvoir proposer quelque chose. Franchement,
Pourriez élargir ces propositions à des partis qui ne soient pas que de droite?
Déjà, Horizon, c'est plutôt de centre-droit, mais j'espère, oui. Encore une fois, quand vous êtes sur le terrain avec les habitants, il n'y a pas de question de gauche ou de droite, en fait. Il n'y a pas une question de la bonne idée de gauche. Vous allez à un conseil municipal, il y a 90% des décisions qui sont votées en unanimité de gauche ou de droite. Donc, il y a un moment donné, il y a des dogmes. On a tous besoin d'avoir une image sur la question sécurité. Alors, c'est sûr, ça va faire un débat, parce qu'il faut impérativement que la gauche joue sa partition de gauche. Donc, on n'est pas d'accord avec les mesures de droite. Il faut que les mesures de droite fassent forcément la partition de droite pour dire, nous, on est ultra sécuritaire et la sécurité en ville, c'est grâce à nous. Et donc, il faut forcément jouer ça. Mais en vrai, quand vous êtes avec les vrais gens, quand vous en parlez avec eux dans la rue, au resto ou n'importe où, ils vous disent pas « moi j'ai voté pour Serge Gouard parce que je suis de droite ». Ils ont voté Serge Gouard parce qu'ils ont... Il a une image de la ville, il a incarné la ville, et donc ils ont voté Serge Gouard. Et ils ne se sont pas retrouvés dans d'autres mouvements ou dans d'autres programmes ou dans d'autres personnalités.
Bon, si je vous suis, ça sert à rien de voter pour les municipales alors?
Pourquoi?
Je sais pas. Si on est d'accord avec 90% de ce que l'on propose... La question est volontairement provocante.
Oui, la question est provocante parce que en vérité, c'est ce pourquoi aujourd'hui, on va se positionner devant des électeurs. Les uns et les autres vont arriver avec un programme, avec des choses à proposer. Il y a des choses à proposer pour Orléans. Enfin, on parle de la mobilité.
Et donc voilà, qu'est-ce que vous proposez?
Mais moi, je propose rien. Je ne venais pas à la réunion.
Qu'est-ce qu'Horizon proposerait?
À l'émission à bâton rompu en porte-parole d'Horizon, je ne parlais pas en porte-parole de la municipale. En l'occurrence, personne ne s'est positionné pour les municipales. Et à titre personnel, je ne sais pas du tout où je serai. Je ne sais déjà pas où je suis dans 6 mois, donc je ne sais pas où je serai dans 2 ans. Et puis, il se passe beaucoup de choses en 2 ans. Il y a des dissolutions qui ont décidé beaucoup plus vite que ça.
Que je la reformule dans ce cas-là. Vous, avec votre expérience d'ancien élu, qu'est-ce que vous avez repéré dans les priorités qu'il faudrait mener pour que Orléans se porte mieux au niveau à la fois de la ville, peut-être, et aussi au niveau de la politique métropolitaine? C'est vaste comme question.
On a 3 heures d'émission.
Est-ce qu'il y a des priorités particulières que vous avez pu voir, vous, en tant qu'élu, et sur lesquelles vous conseilleriez peut-être quelqu'un?
La question, c'est la question de la proximité. Aujourd'hui, on doit pouvoir tout faire à pied.
Ça fait 30 ans qu'on en parle.
Ça fait 30 ans qu'on ne le fait pas des masses, en fait. Ouais. On doit pouvoir...
À Orléans, plus qu'ailleurs ou pas?
Plus qu'ailleurs. Enfin, je sais pas, mais...
Il y a le plan vélo, par exemple.
Oui, mais le plan vélo, je crois qu'il a été élu pendant la majorité d'Olivier Carré, puis qu'il n'a jamais été mis en place.
Exactement.
Donc, on peut parler de ça. On peut parler du vélo. Le vélo, c'est un vrai sujet. Et en fait, on a une problématique qui est très claire là-dessus. Mais au-delà de la politique, c'est qu'à un moment donné, faut opposer les modes de circulation. Et Et politiquement, on peut pas le faire, opposer les modes de circulation. Mais il y a un moment donné, si on veut que ça fonctionne, il faut le faire. Le vélo, il a sa place en ville et il a sa place au détriment de la voiture. Et la voiture doit pouvoir trouver un mode de circulation. Sauf que quand vous travaillez à Orléans-Nord et que vous habitez dans le Sud, eh ben vous ne pouvez pas faire autrement que de prendre votre voiture. Quand vous allez au pôle 45 et que vous habitez à Saint-Marceau, à Olivet ou à La Source, eh ben vous ne pouvez pas faire autrement que de prendre votre voiture. Et parfois aussi, les bus ne répondent pas, les trams ne répondent pas à ce besoin. Là. Et il y a un moment donné où la mobilité elle est nécessaire. Il y a une mobilité, on parlait de la ville femme tout à l'heure, il y a quand même des choses à faire pour que les femmes en ville à Orléans se sentent bien, se sentent intégrées, se sentent en place. C'est vrai pour les femmes mais c'est vrai aussi pour toutes les populations inclusives. Il y a des sujets comme ça où la ville elle a besoin de se positionner pour garder un dynamisme. Et c'est pas uniquement des gros projets, c'est des projets du quotidien. Et je crois qu'on ne répond pas aujourd'hui, hein, de mon point de vue, on ne répond pas assez aux projets du quotidien et à la vie quotidienne des Orléanais.
Ben, je persiste à dire que ça fait le début d'un programme, ah, ça. Mais voilà, et nous, oh, voilà, on a beaucoup parlé sur le local. On va maintenant aller vers le national. Comment je peux t'appeler, citoyen engagé,
observateur engagé, si tu veux. Citoyen engagé, c'est bien.
L'observateur engagé, citoyen engagé. Mathieu Langlois est notre invité dans À bâton rompu.
À bâton rompu, 19h-20h sur Radio Campus Orléans.
Une nouvelle donne politique au niveau national. D'abord, comment tu as vécu ça? Maintenant, il y a quoi? Deux blocs, je dis, trois blocs maintenant. Avec un gouvernement qui se fait. On va partir par le début, cette dissolution imbécile.
Bah, franchement, c'est fou. Enfin, il y a une problématique et je rejoins Mourad tout à l'heure sur la question de la Palestine et Israël. Très simplement, je trouve qu'aujourd'hui, on manque de nuances. En fait, on manque de nuances et soit on est dans un camp, soit on est dans l'autre. Je crois que Emmanuel Macron ne pouvait pas faire autrement que de voter une dissolution, en fait, de proclamer une dissolution.
Ouais, mais le timing, enfin, c'est quand même dingue. À 20h03, tu as Bardella qui demande la dissolution. À 21h, il lui donne.
Ouais, non, mais je suis d'accord. Après, est-ce que tout a été bien fait? Est-ce qu'aujourd'hui, il ne s'en mord pas les doigts? Je pense que si. Honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, il pouvait pas faire autrement. Et s'il n'y avait pas une dissolution de l'Assemblée, elle serait arrivée avec le budget là.
Oui, bien sûr.
Donc
bien
en fait, ça n'a juste rapproché les chances que de 4 ou 5 mois. Après, encore une fois, on a aussi les politiques qu'on mérite, on a aussi les élections qu'on mérite, c'est-à-dire qu'on a une population française qui est fracturée, qui ne se retrouvent pas les uns avec les autres et qui font que à un moment donné on se retrouve avec différents blocs qui là aussi rentrent dans un dogme parisien parce qu'en fait ça n'intéresse que Paris hein, le positionnement de l'Assemblée. Non mais c'est un vrai sujet parce qu'en fait il y a la vie parisienne et puis il y a la vie dans le reste du monde. Et quand vous parlez aux gens, encore une fois, ce qui se passe à Paris à l'Assemblée, ils s'en foutent un peu. Et la seule chose qu'ils voient, c'est que ça change pas grand-chose pour eux réellement dans leur vie de tous les jours. Mais que
tu expliquerais peut-être le vote RN comme ça aussi.
Ouais, honnêtement, je crois qu'il y a un décrochage. Il y a un décrochage entre ce que l'élite pense et ce que le peuple, entre guillemets, vit.
Bah, du coup, ça devrait être un vote de protestation. Or, là, on voit bien qu'il y a un vote d'adhésion, quoi. Tout le monde le dit, enfin, les spécialistes le disent. Tu le crois aussi ou pas?
Ouais, en partie, oui. Ouais. En partie, oui. En partie, oui, parce que je crois aussi, malheureusement, que il y a quand même un son de fond qui revient très souvent. C'est on a tout essayé, ça nous a pas arrangé. Et puis le seul qu'on n'a pas essayé, c'est le Rassemblement National. Voilà.
Ce qui est faux.
Oui, ce qui est faux.
Deux.
Historiquement, on a déjà tenté
non.
le.
Oui, oui. Non, mais d'accord. Et puis, on a essayé dans des communes et dans des collectivités où ça ne s'est pas mieux fait que dans d'autres, et ils sont revenus pour autant. Il n'empêche que il faut aussi comprendre le malaise. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on peut pas estimer que quand on fait 18 millions ou 13 millions, 14 millions de voix et qu'on est premier aux élections législatives, parce que là après, il y a un vaste sujet
aux
de est-ce que.
Européennes.
Oui, mais il y a aussi les législatives où au premier tour ils sortent en tête.
Oui, c'est au second tour avec le barrage républicain.
C'est ça. Ouais.
Et après, on rentre. Pardon, mais moi j'ai un problème avec ça, et pourtant je travaille dans le numérique et je devrais pas le dire, mais avec Internet et avec le buzz perpétuel politique qui existe depuis 10 ans, on a saoulé tout le monde pendant 3 jours avec des... C'est le problème du fait divers, c'est qu'aujourd'hui pendant 3 jours on fait le buzz à rabâcher sans arrêt les mêmes sujets. L'NFP... a crié victoire partout, alors qu'en fait, ils n'ont pas gagné. En marche,
ils sont quand même arrivés en tête.
Non. OK, il n'y a pas de majorité absolue, mais factuellement, ce sont quand même eux qui sont arrivés en tête.
Mais de qui, de où?
Le NFP, les chiffres, ils ont plus de députés.
Grâce à quoi? À des désistements.
Il y a eu des désistements de l'autre côté aussi.
Mais bien sûr. Ouais. Mais en fait, il y a qui est.
Il y a
en...
même eu plus de désistements côté NFP que côté que de l'autre côté. Quoi.
Mais la le problème de fond, c'est que les seuls qui ne sont qui n'ont pas eu de désistement et qui n'ont pas eu de candidat gagnant plus que ça, c'est le Rassemblement National. Mais tous les autres qui sont aujourd'hui présents à l'Assemblée ont été élus majoritairement parce qu'il y a eu un désistement du candidat qui était deuxième. Donc en fait, personne n'a gagné. Il se trouve que là, c'est NFP qui a gagné parce que ils ont eu plus de candidats avec des désistements qui ont fait qu'ils sont terminés en tête. Bah, regardez, franchement, je prends l'exemple de Caroline Janvier sur la deuxième circonscription du Loiret.
Qui perd contre...
Honnêtement, oui. Vous avez un candidat du RN. Mmh. Jamais vu au absolument, bataillon. Absolument. Jamais vu.
On en a parlé.
On en a eu quelques-uns.
Je sais,
hein,
j'en ai entendu. Et il y a un certain nombre de candidats qui, franchement, ont été trouvés, on ne sait pas trop où. Ils arrivent à faire premier ou deuxième. Et à rendre le débat aussi démocratique de dire, écoutez, je suis députée sortante, je vais quand même me retirer parce qu'il est important qu'Emmanuel Duplessis soit élu. Franchement, ça pose quand même une question sur notre système démocratique. Est-ce qu'on peut en sortir tous grandis et dire Emmanuel Duplessis a gagné, donc du coup le NFP a gagné la deuxième circonscription du Loiret. Est-ce que là-dessus vous pouvez dire que c'est vrai? Il n'a pas gagné la deuxième circonscription du Loiret. Il a été élu, certes. Il a été premier parce que les voix se sont reportées. Ça aurait pu être quelqu'un de la Renaissance ou des LR constructifs. Ça aurait été la même chose. Mais pour autant, ça pose un problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un tel ras-le-bol que les gens ne regardent plus les candidats. Ils votent pour des entités, ils votent pour ce qu'ils voient dans les médias et pour des positions de buzz, parce que c'est quand même ça, majoritairement. Et derrière, malheureusement, on se retrouve avec un certain nombre de députés ou une assemblée qui est aujourd'hui ingouvernable.
Mais bien sûr. Mais Victor.
Oui, moi, je voudrais revenir sur l'idée qu'au final, ils n'ont pas gagné. C'est un jeu, en fait. Il faut vraiment voir ça comme ça. Les élections, c'est un jeu, c'est un.
Non, mais si. Alors, attends, excuse-moi. Non, mais excuse-moi, je suis d'accord avec toi, c'est un jeu. Mais il y a un moment donné, ça fait 30 ans qu'on dit aux Français que la politique, c'est un jeu et que c'est un jeu entre Parisiens qui se renvoient la balle. Un coup, c'est à gauche, un coup, c'est à droite. Et en fait, quand tu es en train de terminer la fin du mois dans le rouge, que tu n'arrives pas à t'en sortir, que tu ne crois plus en notre situation de notre pays, que tu as des enfants, tu dis merde, attends, ils vont finir comment demain, etc. Et le jeu politique qui consiste à dire Mélenchon qui prend la parole pour dire on a gagné les gars, l'autre d'après il dit c'est nous qui avons gagné, mais en fait c'est pas lui, et de pas avoir de gouvernement pendant 60 jours, juste désolé, mais ça crée l'exaspération auprès des citoyens français qui triment, qui galèrent. Il y a une augmentation de prix comme jamais, on paye des impôts de fou de plus en plus, et il y a un moment donné, si tu veux, le jeu. Il n'est pas compris par les citoyens qui votent.
J'allais te dire, c'est pas la gauche qui a commencé. Hein.
Ouais. Mais j'ai pas dit que c'est la gauche. C'est exasperant pour tout le personnel politique.
Mais permettez-moi de m'arrêter sur justement ce que vous disiez, par exemple, par rapport à la deuxième circonscription, qui est un exemple parmi d'autres de désistement pour faire barrage au Rassemblement National. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire dans ce cas-là? Est-ce qu'il fallait, dans ce cas-là, s'arrêter juste au premier tour? Est-ce qu'il fallait trouver une autre solution? Parce qu'au final, c'est l'élection, comme Victor le disait. Alors, je dirais peut-être pas c'est un jeu, mais en tout cas, ce sont des règles. Premier tour, deuxième tour, point final. Et là, ce sont les règles démocratiques qui se sont appliquées pour le coup. L'extrême droite, en tout cas pour certaines personnes, plus pour tout le monde par rapport à il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, l'extrême droite pour certains encore, c'est un ennemi alors que la droite est un adversaire. C'est ça la différence aussi. Donc c'est le principe qui a été appliqué d'un côté comme de l'autre. Du coup, est-ce que vous partagez cela ou est-ce que justement vous remettez en cause? Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous auriez proposé à la place?
Non, mais moi, alors déjà, d'une part, j'ai strictement rien à proposer. Je regarde la situation comme n'importe qui et j'essaie de faire la meilleure analyse possible. Déjà, d'ailleurs, pour moi, à la base, parce que c'est ça aussi le fait de venir aujourd'hui, c'est le fait d'échanger avec vous et de pouvoir débattre. À titre personnel, je prends la parole pour personne.
On en est très heureux.
Je prends la parole pour personne, hein, en soi. Mais je pense qu'on est dans un système qui est en bout de course. Enfin, vraiment.
Sixième République. Vous allez la défendre aussi?
Non mais je dis pas si la 6ème République ou pas, mais en tout cas
il y a un point de convergence avec Mélenchon.
Écoute, je ne pensais pas avoir un point avec Mélenchon en arrivant, mais peut-être qu'en repartant après 16 ans à Radio Campus, ouais, au bout d'un moment, dès que j'arrive à Radio Campus, je deviens rouge. Je ne sais pas comment ça se passe. Non mais cela dit, il y a quand même une question. Enfin voilà. Et puis il y a une question de fond, c'est que les citoyens ne se déplacent plus pour aller voter.
Ça pose
quand même un sujet. En fait, c'est comment on fait pour redonner goût et comment on redonne du crédit à la politique et comment on redonne du crédit aux hommes et aux femmes politiques.
On va vous faire dire constituante dans quelques minutes. Je vais couper ce débat
parce qu'on a que 2 minutes pour la dernière question.
Alors,
pour laisser la parole.
Oh
bah oui. Ce gouvernement, tu en penses quoi?
Eh ben, bon courage. Parce que voilà, après il y a des gages, je vois bien Bruno Retailleau qui prend la parole là et qui fait tout de suite le premier flic
ça
de France.
Ça.
Mais non, parce que c'est des gages. c'est des gages politiques pour montrer que l'ordre est établi avec le gouvernement de Michel Barnier. Voilà, c'est quand même des sujets. Je pense que, honnêtement, je pense qu'ils vont aller jusqu'au budget. Qui vont faire voter le budget, parce que de toute façon, d'un point de vue constitutionnel, on n'a pas vraiment de le choix de, que de voter le budget et ensuite le budget de la sécurité sociale qui arrive. Et puis après, je pense que c'est un peu la fin du gouvernement Michel Barnier, et je suis quasiment persuadé qu'on repart sur une dissolution dans moins d'un an. Mais malheureusement, à quel prix, et à quel prix pour la France dans son ensemble, c'est quand même un problème pour le dynamisme et la portée de notre pays.
À quel prix, on va peut-être en parler tout à l'heure, là pour finir cette émission avec Victor, sur le rapport sur la pauvreté publié par le Secours Populaire, juste après un jingle.
Abattons rompu sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours, tous les mardis de 19h à 20h.
Alors, Victor, ce rapport est sorti il y a quelques jours. Hein,
oui, c'est l'édition 2024 du 18e baromètre sur la pauvreté et la précarité Ipsos qui a été commandé par le Secours Populaire Français. Alors, au début, je me suis dit que j'allais prendre l'article, faire un grand résumé, etc., noter les trucs, mais en fait, il y avait tellement de chiffres, tellement de précisions dans cet article qu'au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, ce que je vais faire plutôt, c'est prendre l'article et sortir les chiffres qui sont les plus marquants. Le niveau de difficulté est tel qu'au total, 62% des Français déclarent avoir connu la pauvreté ou avoir été sur le point de la connaître. Un chiffre en hausse de 4 points par rapport à 2023. Bon, déjà, ça fait un petit peu peur. Ça fait quand même 62% des Français, c'est quand même une majorité de Français qui, du coup, se déclarent à la limite de la pauvreté ou de pouvoir la connaître. 80% des ouvriers. Si jamais on prend avec les employés, ça monte à 69%.
Oula. Ouais.
Il y a eu un petit... Et voilà. Les plus touchés par la précarité sont bien évidemment les jeunes, ensuite les personnes en situation étrangère, les femmes, les jeunes, ça j'ai déjà dit, voilà, les personnes racisées. Donc voilà, c'est toujours un peu le classique. Le seuil de pauvreté subjectif aussi a changé.
C'est-à-dire subjectif.
Alors le seuil de pauvreté subjectif, c'est l'endroit à partir du moment où on se considère comme pauvre. Maintenant, il est établi à en moyenne, du coup, chez les personnes, c'est du déclaratif. Hein, okay. C'est pas une mesure qui a vocation et truc. À 2 euros du SMIC.
Ah oui.
Ouais.
Ah ouais, je savais pas.
Le seuil de pauvreté ressenti, c'est à partir de 2 euros en dessous du SMIC. C'est quand même assez flippant.
Assez flippant, oui. Mais oui, alors cette question de la pauvreté, t'as pas fini en fait, je te coupe
non,
la parole.
Non, mais vas-y.
Mais oui, je voulais faire réagir notre invité qui est citoyen engagé, il disait. Hein, mais par exemple, non, mais parlons d'Horizon. Ils en disent quoi, cette pauvreté qui est maintenant palpable et qui est un des éléments communs qui nous rassemble Français.
Alors, moi, je suis désolé, mais je suis pas porte-parole d'Horizon.
Non, mais je sais bien, mais forcément, mais tu dois savoir de ton truc. Est-ce que bon, allez, en tant qu'humain. Allons-y.
Non, mais il y a une question, c'est que, comme on le disait tout à l'heure, la pauvreté augmente, qu'avec le coût de l'inflation, il se trouve que les budgets de familiaux, les budgets de la vie quotidienne augmentent, que les salaires n'augmentent pas pour autant, que c'est faux de faire croire que les entreprises peuvent augmenter les salaires comme ça, parce que honnêtement, nous on le voit avec mon travail en l'occurrence, les entreprises qui ferment, c'est tous les jours. Et une fois qu'on est au chômage, la question de la pauvreté, elle se pose aussi, en fait. Et on a quand même une paupérisation de la société de manière générale. On n'est pas sur un gap qui fait que d'augmenter. Donc, oui, c'est un constat qui apparaît. Honnêtement, là, comme ça, vous dire que j'ai une solution, non. Ouais.
Vous n'êtes pas keynésien, quoi. Voilà. C'est-à-dire la relance par la consommation et donc, du coup, l'augmentation des salaires qui peut profiter à cette consommation et créer un cercle vertueux.
Et la relance de grands travaux publics.
Aussi, oui. Voilà.
Oui, mais c'est vrai qu'on n'est pas
non,
du tout.
On n'est pas du tout.
Non, mais la question c'est qu'on n'est pas du tout en déficit. Ouais. On n'a pas un pays qui a X% de son PIB qui est en déficit.
C'était ironique.
Mais d'après Michel Barnier, a priori, oui, on va avoir un certain nombre de problèmes.
Il va prendre une mesure gauchiste peut-être.
Augmenter
les impôts pour les plus riches, remettre l'ISF, notamment.
Oui, bah, j'attends de voir. On va voir comment ça va se passer à l'Assemblée dans ces cas-là. Mais il n'empêche que voilà. Il y a un moment donné où l'État ne peut plus faire grand-chose, si ce n'est d'augmenter effectivement les impôts, que les sociétés aujourd'hui n'ont pas les capacités d'augmenter. Voilà. Alors, toutes les sociétés françaises ne sont pas LVMH ou des sociétés qui font des profits incroyables. Hein. La majorité des TPE-PME galèrent. Donc c'est aussi un sujet, enfin voilà, on n'est pas sur un moment de croissance dynamique et tout le monde le ressent. Et peut-être que dans quelques temps, j'espère qu'on ne sera pas dans un profil de récession type Espagne ou Grèce, mais il faut quand même s'en méfier.
Oula.
Oui, mais il faut quand même s'en méfier parce que tout le monde a dit oula, non, jamais en Grèce ou en Espagne, et c'est arrivé.
Après,
et,
moi, voilà. Après, moi, j'ai pas l'impression que dans l'histoire, l'augmentation des salaires ait fait tant de mal que ça aux entreprises. Hein.
Ah non, 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 du tout. En général, ça rase la consommation. Et,
voilà.
Oui, non, mais...
enfin, je sais pas, après, c'est...
Il y a trois semaines, j'accueillais à ce micro, enfin, j'avais interviewé Emmanuel Duplessis, que tu connais, qui, vous êtes de la même génération, il est devenu député là, vous étiez étudiant il n'y a pas très très longtemps, et je lui ai posé la question sur le, bah, justement les mouvements contre la LRU qui étaient plutôt académiques. Aujourd'hui, on est passé à une précarité, on en parle pratiquement tous les jours sur cette radio, avec des étudiants qui viennent nous voir avec leurs difficultés. T'en es où là? Toi, là-dessus, de réflexion sur cette précarité étudiante.
Bah, il y a une question qui se pose, c'est de savoir si on peut avoir une sorte d'indemnité pour les étudiants. Et la question, elle doit se poser.
Tu es favorable ?
Ben, en tout cas, mais qui, enfin, je suis personne pour dire si je suis favorable ou pas
non,
à cette mesure, tu vois.
Si, parce que t'as une voix qui compte.
Bah, il y a la question qui se pose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est jeune, moi je l'ai vu en étant étudiant salarié aussi, il y a un moment où si tu veux pouvoir vivre et pouvoir faire tes études en même temps, bah t'es obligé de sacrifier l'un des deux. Ouais. Et souvent quand tu travailles, tu sacrifies aussi. Alors, et je tire mon chapeau, je sais pas si cette expression se dit encore en 2024, mais
vas-y, t'es sur Radio Campus.
Ouais, c'est vrai,
on a 30 ans.
C'était l'émission d'il y a 16 ans, c'est bon, on peut le faire. Mais il n'empêche que voilà, quand vous êtes étudiant salarié, bah il faut pouvoir assurer derrière les études, et ça se fait franchement dans des conditions incroyables, et c'est dur, et franchement bravo pour ceux qui y arrivent. La preuve, c'est que en titre perso, j'y suis pas arrivé, donc voilà, mais il n'empêche que voilà, si on veut pouvoir avoir des études et qu'on n'est pas né dans la bonne famille où tous les moyens sont donnés grâce aux parents pendant la scolarité, bah c'est une galère. Et souvent ça se fait à quel détriment? Ça se fait avec des études courtes, souvent en alternance, où on considère que du coup c'est des voies de garage, et c'est pas la solution si on veut aussi avoir des élites, ou du moins des têtes pensante, et si on veut aller sur ce sujet-là. Tout le monde ne finit pas tête pensante ou élite, mais voilà, les études supérieures, c'est important aussi pour un dynamisme d'un pays.
Victor. Et sachant que ça libérait aussi une partie des personnes qui sont actuellement en état de soumission économique à leurs parents, qui vont poursuivre des études, mais du coup sont tributaires de leurs parents pour pouvoir avoir des revenus essentiels pour vivre.
Bien sûr.
Et du coup sont obligés de satisfaire ces 10 parents. Enfin, moi j'ai connu des personnes, à Lille par exemple notamment, un type qui était en études, etc., puis en L2, il s'est dit non, mais en fait c'est pas trop pour moi, j'ai envie de prendre un peu de temps pour moi, de faire autre chose. Son père, il a fait ah bon, bah à partir de maintenant tu me rembourses.
Ouais.
Et du coup il lui filait 700 euros par mois, et il devait rembourser ses 700 euros par mois. Donc il a dû trouver un travail, il a abandonné ses études, et après il a galéré comme un connard, quoi.
La précarité étudiante, on continuera à en parler en tout cas ici. Une dernière question, et merci de cette excellente émission, vraiment. Amis auditeurs, dites à tout le monde autour de vous.
Auditeurs.
Ouais, je sais pas, j'arrive pas.
Ou auditeurs et auditrices, voilà.
C'est ça.
Merci à toi d'être venu, Mathieu.
Ah, avec
Mathieu.
Plaisir.
La dernière question, c'est sur ce que tu fais maintenant. T'es dans le numérique.
Ouais.
Avec Olivier Carré, vous aviez fait à un moment le pari de Orléans, ville numérique, +++.
Ouais.
Il y a eu le labo.
Ouais.
Et on en est où, là?
Bah il se passe plus rien, je crois.
Il me semble, hein.
Ouais voilà. Ouais. Non, après franchement, le labo c'est une vraie réussite. On voit les startups qui sont dedans. On continue d'avoir un écosystème qui est ultra dynamique sur le numérique. C'est vrai, quand on va à Vivatech et qu'on voit l'ensemble des startups qui sont présentes pour la région centre, c'est quand même une belle réussite. Mais effectivement, je crois que la ville est un peu moins présente sur les sujets du numérique, et c'est dommage parce que je pense qu'Orléans a sa carte à jouer. Ouais. Et ça mérite.
Et tu le sens de tes activités que...
Non, voilà. Bah c'est un peu c'est différent.
C'est ce qu'on te dit, tes collègues.
Non, bah, je le vois en étant dans l'écosystème. Après, c'est pas une position de man liée à mon métier ou autre. Mais oui, Orléans. Enfin, je me rappelle de la bonne période de gloire. Alors ça s'est fait au détriment d'Olivier Carré, mais quand on allait au CES ou quand on allait quand nos entreprises, hein, je parle pas des élus ou autres, hein, je parle des entreprises, étaient envoyées à Las Vegas, au Web Summit à Lisbonne, et qu'on était en capacité de pouvoir le faire. Aujourd'hui, c'est encore fait par la région à Vivatech, mais c'était quand même une vitrine incroyable pour la French Tech Loire-Vallée à l'époque, et maintenant French Tech Val-de-Loire. Et voilà, on a quand même un écosystème qui vit bien, et en plus on a de la chance, on a une région qui est accessible, on a une région qui est encore relativement petite et qui se fait à taille humaine, donc c'est quand même accessible en région centre de pouvoir entreprendre et faire des choses bien. Et voilà, et peut-être qu'Orléans est un peu moins présente sur ce sujet numérique, mais l'écosystème vit, et on a beaucoup de chance d'avoir cet écosystème en région centre.
Merci à toi. Un dernier mot, Victor, Thomas.
Bah écoute, non, c'était un peu de cours, comme t'as dit, c'était une... non mais c'était une belle émission, franchement, ouais, oui, très intéressant, vraiment de.
Puis c'est, de pouvoir c'est changer. Bien, c'est bien pour nous aussi de pouvoir rencontrer des profils différents,
ouais. D'avoir des gens de droite dans ce.
De notre bulle.
C'est fou d'avoir quand même des gens de droite dans ce studio. C'est déjà non, mais... c'est déjà le cas il y a 16 ans quand je suis venu pour le CPE, la LRU, etc. C'est incroyable quand même, ça ne change jamais. Il y a des nouveaux micros, une nouvelle table de mixage, mais jamais dans le genre de droite à Radio Campus, incroyable quand même.
Ce que je te propose, c'est de.
C'est faux, il y en a eu.
C'est exagéré, je rigole, je retire.
Ce que je te propose, c'est de revenir de temps en temps, discuter avec nous comme ça sur des sujets d'actualité. Mathieu Langlois, donc citoyen engagé et informé,
ça va.
Était notre invité, était notre invité dans un bâton rempli.
Je peux changer ma bio sur Insta, c'est bon.
Voilà, c'est ça.
Le numérique, ça vous connaît en même temps.
C'est ça, c'est pour ça.
Merci à toi d'être venu. Merci on va beaucoup. Terminer cette émission. Alors, dans un instant, sur Radio Campus Orléans, c'est Ride On. Vous connaissez la mythique émission de reggae. À Tours, je pense qu'à 21h, il y a du jazz. On va terminer cette émission avec ce morceau qui est un des premiers morceaux de Rocksteady. C'est un style de reggae. Hoptown Davis, Take It Easy. Mardi prochain, vous revenez. Prenez soin de vous.
Take your time, take your time. No need to hurry. Take it easy, take it easy, take it easy. No need to hurry. No slipping, no sliding, no bumping, no boring. I want to ride into town. If you fall from the race, it's no disgrace. Just pick yourself from off the ground. Take your time, take your time, take your time. No need to hurry, no, no, no. Take it easy, take it easy, take it easy, take it easy. No need to hurry. For the road is rough, and don't you ever get stuck. Take your time, take it easy, take your time. No need to hurry on. Time, take a time, take a time. No need to worry. No slipping, no sliding, no bumping, no boring. I want to ride into town. If you fall from the race, it's no disgrace. Just pick yourself from off the ground. And take a time, take a time, take a time. No need to worry, no, no, no. Take it easy, take it easy, take it easy, take it easy. No need to worry, oh, oh. Take your time now, take your time, take your time, take your time. No need to worry. For the road is rough, and don't you ever get stuck.
Bah, je ne comprends pas, cette fichue radio fonctionnait très bien il y a 2 secondes et maintenant je n'en tire plus rien du tout.
Radio Campus 88.3.
Remarquez, ça vient peut-être de l'antenne tout simplement.
Expérience qui fera date dans les annales de la radio.
La population orléanaise écoute le 88.3 FM.
Non, c'est stupide, voilà, maintenant je bloque.
Thank you.
com essa neganda, descendo a ladeira do sapoti, curti, 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 um salto, um charme de preta. Mas que beleza essa nega. Veja como essa nega anda, descendo a ladeira do sapoti, curti, 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 um salto no charme de preta. Mas que beleza essa nega. Ela que tem o axé bom.
Yes, yes, yes.